Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre. L'enfant noir de Camara Laye aux éditions Plomb. Voici, pour mieux le connaître, quelques mots concernant l'écrivain. Camara Laye est né en 1928 à Kourousa, Haute-Guinée. Il est décédé en 1980. Après ses premières études à l'école coranique, puis à l'école primaire française de Kourousa, Camara Laye entre au collège technique de Conakry. Reçu premier au certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien, il est envoyé en France, au centre école de l'automobile d'Argenteuil. Il poursuit ses études à Paris tout en travaillant aux usines Simca. Après l'indépendance de son pays, en 1958, il rentre en Guinée pour y occuper d'importantes fonctions administratives. Depuis 1965, en désaccord avec le régime guinéen du moment, Camara Laye s'est fixé au Sénégal. « Je ne pensais qu'à moi-même, et puis à mesure que j'écrivais, je me suis aperçue que je traçais un portrait de ma Haute-Guinée natale. » Au-delà du récit autobiographique d'un jeune écrivain de 25 ans, L'enfant noir nous restitue dans toute sa vérité la vie quotidienne, les traditions, les coutumes de tout un peuple. Un livre plein de finesse et de talent qui s'est imposé comme l'un des classiques de notre temps. Camara Laye, L'enfant noir, prix Charles Veillon, 1954. Un roman des éditions Plomb. À ma mère, femme noire, femme africaine, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô Daman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô toi, Daman, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de la résignation, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô Daman, Daman de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne à chaque pas m'accompagne. Ô Daman, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, ô toi, ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils si loin et si près de toi. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. C'est le chapitre 1 que nous commençons. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier près de mon père et leur voix me parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'avais interrompu de jouer, l'attention, toute mon attention captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case. Et je m'étais bientôt approchée. J'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour. Il en traînait toujours, qui se détachait de la palissade de roseaux tressés qui enclôt notre concession. Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas. Il prenait goût au jeu. Il avalait lentement le roseau. Il l'avalait comme une proie avec la même volupté, me semblait-il. les yeux brillants de bonheur et sa tête petit à petit se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent n'eût plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts si, à l'instant, Damani, l'un des apprentis, ne fut sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt je me sentis soulevée de terre. J'étais dans les bras d'un ami de mon père. Autour de moi, on menait grand bruit. Ma mère, surtout, criait fort, et elle me donna quelques claques. Je me mis à pleurer, plus émue par le tumulte qui s'était si opinément élevé que par les claques que j'avais reçues. Un peu plus tard, quand je me fus un peu calmée et qu'autour de moi, les cris eurent cessé, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu. Je le lui promis, bien que le danger de mon jeu ne m'apparût pas clairement. Mon père avait sa case à proximité de l'atelier, et souvent je jouais là, sous la véranda qui l'entourait. C'était la case personnelle de mon père. Elle était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau, et comme toutes nos cases, rondes et fièrement coiffées de chaume. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte à nosier tressé et d'un oreiller bourré de capoques. Au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, surplombant l'oreiller et veillant sur le sommeil de mon père, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle et elles étaient richement et curieusement cerclées de chapelets de coris. On avait au fait de comprendre quelles étaient ce qu'il y avait de plus important dans la case. De fait, elle contenait les gris-gris, ces liquides mystérieux qui éloignent les mauvais esprits et qui, pour peu qu'on s'en enduise le corps, le rendent invulnérable aux maléfices, à tous les maléfices. Mon père, avant de se coucher, ne manquait jamais de s'enduire le corps, puisant ici, puisant là, car chaque liquide, chaque gris-gris a sa propriété particulière. Mais quelle vertu précise, je l'ignore. J'ai quitté mon père trop tôt. De la véranda sous laquelle je jouais, j'avais directement vu sur l'atelier, et en retour, on avait directement l'œil sur moi. Cet atelier était la maîtresse pièce de notre concession. Mon père s'y tenait généralement, dirigeant le travail, forgeant lui-même les pièces principales ou réparant les mécaniques délicates. Il y recevait amis et clients. Et si bien qu'il venait de cet atelier, un bruit qui commençait avec le jour et ne cessait qu'à la nuit. Chacun au surplus qui entrait dans notre concession ou qui en sortait devait traverser l'atelier, d'où un va-et-vient perpétuel. Encore que personne ne parût particulièrement pressé, encore que chacun eut son mot à dire et s'attarda volontiers à suivre des yeux le travail de la forge. Parfois je m'approchais, attiré par la lueur du foyer, mais j'entrais rarement, car tout ce monde m'intimidait fort, et je me sauvais dès qu'on cherchait à se saisir de moi. Mon domaine n'était pas encore là. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pris l'habitude de m'accroupir dans l'atelier et de regarder briller le feu de la forge. Mon domaine en ce temps-là, c'était la véranda qui entourait la case de mon père. C'était la case de ma mère, C'était l'oranger planté au centre de la concession. Sitôt qu'on avait traversé l'atelier et franchi la porte du fond, on apercevait l'oranger. L'arbre, si je le compare au géant de nos forêts, n'était pas très grand, mais il tombait de sa masse de feuilles vernissées une ombre compacte qui éloignait la chaleur. Quand il fleurissait, une odeur entêtante se répandait sur toute la concession. Quand apparaissaient les fruits, il nous était tout juste permis de les regarder. Nous devions attendre patiemment qu'ils fussent mûrs. Mon père, alors, qui, en tant que chef de famille et chef d'une innombrable famille, gouvernait la concession, mon père donnait l'ordre de les cueillir. Les hommes qui faisaient cette cueillette apportaient au fur et à mesure les paniers à mon père, et celui-ci les répartissait entre les habitants de la concession, ses voisins et ses clients. Après quoi, il nous était permis de puiser dans les paniers et à discrétion. Mon père donnait facilement et même avec prodigalité. Quiconque se présentait partageait nos repas. Et comme je ne mangeais guère aussi vite que ses invités, j'eusse risqué de demeurer éternellement sur ma faim si ma mère n'eût pris la précaution de réserver ma part. « Mets-toi ici, me disait-elle, et mange, car ton père est fou. » Elle ne voyait pas d'un trop bon œil ses invités, un peu bien nombreux à son gré, un peu bien pressés de puiser dans le plat. Mon père, lui, mangeait fort peu. Il était d'une extrême sobriété. Nous habitions en bordure du chemin de fer. Les trains longeaient la barrière de roseaux tressés qui limitait la concession et la longeaient, à vrai dire, de si près que des flamèches échappées de la locomotive mettaient parfois le feu à la clôture. Et il fallait se hâter d'éteindre ce début d'incendie si on ne voulait pas voir tout flamber. Ces alertes, un peu effrayantes, un peu divertissantes, appelaient mon attention sur le passage des trains, et même quand il n'y avait pas de train, car le passage des trains à cette époque dépendait tout entier encore du trafic fluvial, et c'était un trafic des plus irréguliers. J'allais passer de longs moments dans la contemplation de la voie ferrée. Les rails luisaient cruellement dans une lumière que rien à cet endroit ne venait tamiser. Chauffé des lobes, le ballast de pierre rouge était brûlant. Il l'était au point que l'huile tombée des locomotives était aussitôt bue et qu'il n'en demeurait seulement pas trace. Est-ce cette chaleur de four ou est-ce l'huile, l'odeur d'huile qui malgré tout subsistait et qui attirait les serpents? Je ne sais pas. Le fait est que souvent, je surprenais des serpents à ramper sur ce ballast cuit et recuit par le soleil, et il arrivait fatalement que les serpents pénétrassent dans la concession. Depuis qu'on m'avait défendu de jouer avec les serpents, sitôt que j'en apercevais un, j'accourais chez ma mère. « Il y a un serpent » criai-je. « Encore un !» s'écriait ma mère. Et elle venait voir quelle sorte de serpent c'était. Si c'était un serpent comme tous les serpents, en fait, ils différaient tous. Elle le tuait aussitôt à coups de bâton et elle s'acharnait, comme toutes les femmes de chez nous, jusqu'à le réduire en bouillie, tandis que les hommes, eux, se contentaient d'un coup sec, nettement asséné. Un jour pourtant, je remarquai un petit serpent noir au corps particulièrement brillant qui se dirigeait sans hâte vers l'atelier. Je courus avertir ma mère, comme j'en avais pris l'habitude, mais ma mère n'eut pas plus tôt aperçu le serpent noir qu'elle me dit gravement « Celui-ci, mon enfant, il ne faut pas le tuer. Ce serpent n'est pas un serpent comme les autres. Il ne te fera aucun mal. Néanmoins, ne contrarie jamais sa course. » Personne dans notre concession n'ignorait que ce serpent-là, on ne devait pas le tuer. Sauf moi, sauf mes petits compagnons de jeu, je présume, qui étions encore des enfants naïfs. Ce serpent, ajouta ma mère, et le génie de ton père.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Je considérais le petit serpent avec ébahissement. Il poursuivait sa route vers l'atelier. Il avançait gracieusement, très sûr de lui, eût-on dit, et comme conscient de son immunité. Son corps éclatant et noir étincelait dans la lumière crue. Quand il fut parvenu à l'atelier, j'avisai pour la première fois qu'il y avait là, ménagé au ras du sol, un trou dans la paroi. Le serpent disparut par ce trou. « Tu vois, le serpent va faire visite à ton père !» dit encore ma mère. Bien que le merveilleux me fût familier, je demeurais muet, tant mon étonnement était grand. Qu'est-ce qu'un serpent avait à faire avec mon père? Et pourquoi ce serpent-là précisément? On ne le tuait pas, parce qu'il était le génie de mon père. Du moins, était-ce la raison que ma mère donnait? Mais au juste, qu'était-ce qu'un génie? Qu'étaient ces génies que je rencontrais un peu partout, qui défendaient telle chose, commandaient telle autre? Je ne me l'expliquais pas clairement, encore que je n'eusse cessé de croître dans leur intimité. Il y avait de bons génies, et il y en avait de mauvais, et plus de mauvais que de bons, il me semble. Et d'abord, qu'est-ce qui me prouvait que ce serpent était inoffensif? C'était un serpent comme les autres, un serpent noir sans doute, et assurément un serpent d'un éclat extraordinaire, un serpent tout de même. J'étais dans une absolue perplexité. Pourtant, je ne demandais rien à ma mère. Je pensais qu'il me fallait interroger directement mon père. Oui, comme si ce mystère eût été une affaire à débattre entre hommes uniquement. Une affaire et un mystère qui ne regardent pas les femmes. Et je décidai d'attendre la nuit. Sitôt après le repas du soir, quand les palabres terminées, mon père eut pris congé de ses amis et se fut retiré sous la véranda de sa case, je me rendis près de lui. Je commençai par le questionner à tort et à travers, comme font les enfants, et sur tous les sujets qui s'offraient à mon esprit. Dans le fait, je n'agissais pas autrement que les autres soirs. Mais ce soir-là, je le faisais pour dissimuler ce qui m'occupait, cherchant l'instant favorable où, mine de rien, je poserais la question qui me tenait si fort à cœur depuis que j'avais vu le serpent noir se diriger vers l'atelier. Et tout à coup, n'y tenant plus, je dis « Père, quel est ce petit serpent qui te fait visite ?» « De quel serpent parles-tu ? » ?»« Eh bien, du petit serpent noir que ma mère me défend de tuer. »« Ah ! » fit-il. Il me regarda un long moment. Il paraissait hésiter à me répondre. Sans doute pensait-il à mon âge. Sans doute se demandait-il s'il n'était pas un peu tôt pour confier ce secret à un enfant de 12 ans. Puis, subitement, il se décida. « Ce serpent, dit-il, est le génie de notre race. Comprends-tu ? » ?»« Oui, dis-je, bien que je ne comprisse pas très bien. » »« Ce serpent, poursuivit-il, est toujours présent. Toujours il apparaît à l'un de nous. Dans notre génération, c'est à moi qu'il s'est présenté. »« Oui, dis-je. » Et je l'avais dit avec force car il me paraissait évident que le serpent n'avait pu se présenter qu'à mon père. N'était-ce pas mon père qui était le chef de la concession? N'était-ce pas lui qui commandait tous les forgerons de la région? N'était-il pas le plus habile? Enfin, n'était-il pas Mon père ? Comment s'est-il présenté ? Dis-je. Il s'est d'abord présenté sous forme de rêve. Plusieurs fois, il m'est apparu et il me disait le jour où il se présenterait réellement à moi. Il précisait l'heure et l'endroit. Mais moi, la première fois que je le vis réellement, je pris peur. Je le tenais pour un serpent comme les autres et je dus me contenir pour ne pas le tuer. Quand il s'aperçut que je ne lui faisais aucun accueil, il se détourna et repartit par où il était venu. Et moi, je le regardais s'en aller et je continuais de me demander si je n'aurais pas dû bonnement le tuer, mais une force plus puissante que ma volonté me retenait et m'empêchait de le poursuivre. Je le regardais disparaître. Et même à ce moment encore, j'aurais pu facilement le rattraper. Il eût suffi de quelques enjambées, mais une sorte de paralysie m'immobilisait. Telle fut ma première rencontre avec le petit serpent noir. Il se tut un moment, puis il reprit. La nuit suivante, je revis le serpent en rêve. « Je suis venu comme je t'en avais averti, » dit-il, « et toi, tu ne m'as fait nul accueil, et même je te voyais sur le point de me faire mauvais accueil. Je lisais dans tes yeux, « Pourquoi me repousses-tu ? Je suis le génie de ta race, et c'est en tant que génie de ta race que je me présente à toi comme au plus digne. Cesse donc de me craindre. » Et prends garde de me repousser, car je t'apporte le succès. Dès lors, j'accueillis le serpent, quand, pour la seconde fois, il se présenta. Je l'accueillis sans crainte, je l'accueillis avec amitié, et lui ne me fit jamais que du bien. Mon père se tut encore un moment. Puis il dit, tu vois bien toi-même que je ne suis pas plus capable qu'un autre, que je n'ai rien de plus que les autres, et même que j'ai moins que les autres, puisque je donne tout, puisque je donnerai jusqu'à ma dernière chemise. Pourtant, je suis plus connu que les autres, et mon nom est dans toutes les bouches. Et c'est moi qui règne sur tous les forgerons des 5 cantons du cercle. S'il en est ainsi, c'est par la grâce seule de ce serpent, génie de notre race. C'est à ce serpent que je dois tout, et c'est lui aussi qui m'avertit de tout. Ainsi, je ne m'étonne point à mon réveil de voir tel ou tel m'attendant devant l'atelier. Je sais que tel ou tel sera là. Je ne m'étonne pas davantage de voir se produire telle ou telle panne de moto ou de vélo ou tel accident d'horlogerie. D'avance, je savais ce qui surviendrait. Tout m'a été dicté au cours de la nuit et par la même occasion, tout le travail que j'aurais à faire, si bien que, d'emblée, sans avoir à y réfléchir, je sais comment je remédierai à ce qu'on me présente. C'est cela qui a établi ma renommée d'artisan. Mais dis-le-toi bien, tout cela, je le dois au serpent. Je le dois au génie de notre race. Il se tut, et je sus alors pourquoi, quand mon père revenait de promenade et entrait dans l'atelier, il pouvait dire aux apprentis, « En mon absence, un tel ou un tel est venu. Il était vêtu de telle façon, il venait de tel endroit et il apportait tel travail. » Et tous s'émerveillaient fort de cet étrange savoir. À présent, je comprenais d'où mon père tirait sa connaissance des événements. Quand je relevai les yeux, je vis que mon père m'observait. « Je t'ai dit tout cela, petit, parce que tu es mon fils, l'aîné de mes fils. » Et que je n'ai rien à te cacher. Il y a une manière de conduite à tenir et certaines façons d'agir pour qu'un jour le génie de notre race se dirige vers toi aussi. J'étais, moi, dans cette ligne de conduite qui détermine notre génie à nous visiter. Oh, inconsciemment peut-être. Mais toujours est-il que si tu veux que le génie de notre race te visite un jour, si tu veux en hériter à ton tour, il faudra que tu adoptes ce même comportement. Il faudra désormais que tu me fréquentes davantage. Il me regardait avec passion et brusquement, il soupira. J'ai peur, j'ai bien peur, petit, que tu ne me fréquentes jamais assez. Tu vas à l'école et un jour tu quitteras cette école pour une plus grande. Tu me quitteras, petit. Et de nouveau il soupira. Je voyais qu'il avait le cœur lourd. La lampe tempête suspendue à la véranda l'éclairait crûment. Il me parut soudain comme vieilli. « Père ! » m'écriai-je. « Fils ! » dit-il à mi-voix. Et je ne savais plus si je devais continuer d'aller à l'école ou si je devais demeurer dans l'atelier. J'étais dans un trouble inexprimable. « Va maintenant !» dit mon père. Je me levai et me dirigeai vers la case de ma mère. La nuit scintillait d'étoiles, la nuit était un champ d'étoiles. Un hibou ululait tout proche. Ah, mais où était ma voix? Savais-je encore où était ma voix? Mon désarroi était à l'image du ciel, sans limite, mais ce ciel, hélas, était sans étoiles. J'entrai dans la case de ma mère, qui était alors la mienne, et me couchai aussitôt. Le sommeil pourtant me fuyait, et je m'agitai sur ma couche. « Qu'as-tu ? » dit ma mère. « Rien, » dis-je. « Non, je n'avais rien que je pusse communiquer. »« Pourquoi ne dors-tu pas ? » reprit ma mère. « Je ne sais pas. »« Dors, » dit-elle. « Oui, dis-je. » « Le sommeil, rien ne résiste au sommeil, » dit-elle tristement. Pourquoi, elle aussi, paraissait-elle triste? Avait-elle senti mon désarroi? Elle ressentait fortement tout ce qui m'agitait. Je cherchais le sommeil, mais j'eus beau fermer les yeux et me contraindre à l'immobilité, l'image de mon père sous la lampe tempête ne me quittait pas. Mon père, qui m'avait paru brusquement si vieilli, lui qui était si jeune, si alerte, plus jeune et plus vif que nous tous, et qui ne se laissait distancer par personne à la course, qui avait des jambes plus rapides que nos jeunes jambes. « Père, père, » me répétais-je, « père, que dois-je faire pour bien faire ?» Et je pleurais silencieusement. Je m'endormis en pleurant. Par la suite, il ne fut plus question entre nous du petit serpent noir. Mon père m'en avait parlé pour la première et la dernière fois. Mais dès lors, sitôt que j'apercevais le petit serpent, je courais m'asseoir dans l'atelier. Je regardais le serpent se glisser par le trou de la paroi. Comme averti de sa présence, mon père, à l'instant, tournait le regard vers la paroi et souriait. Le serpent se dirigeait droit sur lui en ouvrant la gueule. Quand il était à portée, mon père le caressait avec la main et le serpent acceptait sa caresse par un frémissement de tout le corps. Jamais je ne vis le petit serpent tenter de lui faire le moindre mal. Cette caresse et le frémissement qui y répondaient, mais je devrais dire cette caresse qui appelait et le frémissement qui y répondait, me jetait chaque fois dans une inexprimable confusion. Je pensais à je ne sais quelle mystérieuse conversation. La main interrogeait, le frémissement répondait. Oui, c'était comme une conversation. Est-ce que moi aussi, un jour, je converserai de cette sorte? Mais non! Je continuais d'aller à l'école. Pourtant, j'aurais tant voulu poser à mon tour ma main sur le serpent comprendre, écouter à mon tour ce frémissement, mais j'ignorais comment le serpent eût accueilli ma main, et je ne pensais pas qu'il eût maintenant rien à me confier. Je craignais bien qu'il n'eût rien à me confier jamais. Quand mon père jugeait qu'il avait assez caressé le petit animal, il le laissait. Le serpent, alors, se lovait sous un des bords de la peau de mouton sur laquelle mon père était assis, face à son enclume.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 2. De tous les travaux que mon père exécutait dans l'atelier, il n'y en avait point qui me passionnait davantage que celui de l'or. Il n'y en avait pas non plus de plus noble ni qui requit plus de doigté. Et puis ce travail était chaque fois comme une fête. C'était une vraie fête qui interrompait la monotonie des jours. Aussi, suffisait-il qu'une femme accompagnée d'un griot poussât la porte de l'atelier, je lui emboîtais le pas aussitôt. Je savais très bien ce que la femme voulait. Elle apportait de l'or et elle venait demander à mon père de le transformer en bijoux. Cet or, la femme l'avait recueilli dans les placers de Sigiri, où, plusieurs mois de suite, elle était demeurée courbée sur les rivières, lavant la terre, détachant patiemment de la boue la poudre d'or. Ces femmes ne venaient jamais seules. Elles se doutaient bien que mon père n'avait pas que ses travaux de bijoutier. Et même, n'eût-il que de tels travaux, elles ne pouvaient ignorer qu'elles ne seraient ni les premières à se présenter, ni par conséquent les premières à être servies. Or, le plus souvent, elles avaient besoin du bijou pour une date fixe, soit pour la fête du Ramadan, soit pour tabaski ou pour toute autre cérémonie de famille ou de danse. Dès lors, pour aider leur chance d'être rapidement servie, pour obtenir de mon père qu'il interrompît en leur faveur les travaux en cours, elle s'adressait à un solliciteur et louangeur officiel, un griot, convenant avec lui du prix auquel il leur vendrait ses bons offices. Le griot s'installait, préludait sur sa cora, qui est notre harpe, et commençait à chanter les louanges de mon père. Pour moi, ce chant était toujours un grand moment. J'entendais rappeler les hauts faits des ancêtres de mon père et ses ancêtres eux-mêmes dans l'ordre du temps, à mesure que les couplets se dévidaient, c'était comme un grand arbre généalogique qui se dressait, qui poussait ses branches ici et là et qui s'étalait avec ses 100 rameaux et ramilles devant mon esprit. La harpe soutenait cette vaste nomenclature, la truffait et la coupait de notes toujours sourdes, tantôt aigrelettes. Où le griot puisait-il se savoir? Dans une mémoire particulièrement exercée, assurément, particulièrement nourrie aussi par ses prédécesseurs, et qui est le fondement de notre tradition orale. Y ajoutait-il? C'est possible. C'est métier de griot que de flatter. Il ne devait pourtant pas beaucoup malmener la tradition, car ses métiers de griot aussi de la maintenir intacte. Mais il m'importait peu en ce temps, et je levais haut la tête, grisée par tant de louanges dont il semblait rejaillir quelque chose sur ma petite personne. Et si je dirigeais le regard sur mon père, je voyais bien qu'une fierté semblable alors l'emplissait. Je voyais bien que son amour-propre était grisé et je savais déjà qu'après avoir savouré ce lait, il accueillerait favorablement la demande de la femme. Mais je n'étais pas seule à le savoir. La femme aussi avait vu les yeux de mon père luire d'orgueil. Elle tendait sa poudre d'or comme une affaire entendue et mon père prenait ses balances, pesait l'or. « Quelle sorte de bijou veux-tu » disait-il. Je veux... » Et il arrivait que la femme ne sut plus au juste ce qu'elle voulait, parce que son désir la tiraillait ici, la tiraillait là, parce qu'en vérité, elle aurait voulu tous les bijoux à la fois. Mais il aurait fallu un bien autre tas d'or que celui qu'elle avait apporté pour satisfaire une telle fringale. Et il ne restait dès lors qu'à s'en tenir au possible. « Pour quand le veux-tu ? » disait mon père. Et toujours, c'était pour une date très proche. Ah, tu es si pressée que ça? Mais où veux-tu que je prenne le temps? Je suis très pressée, je t'assure, disait la femme. Jamais je n'ai vu femme désireuse de se parer qui ne le fût pas. Bon, je vais m'arranger pour te satisfaire. Es-tu contente? Il prenait la marmite en terre glaise, réservée à la fusion de l'or, et y versait la poudre. Puis il recouvrait l'or avec du charbon de bois pulvérisé, un charbon qu'on obtenait par l'emploi d'essence spécialement dure. Enfin, il posait sur le tout un gros morceau de charbon du même bois. Alors, voyant le travail dûment entamé, la femme retournait à ses occupations. Rassurée, pleinement rassurée cette fois, laissant à son griot le soin de poursuivre des louanges dont elle avait tiré déjà si bon profit. Sur un signe de mon père, les apprentis mettaient en mouvement les deux soufflets en peau de mouton, posés à même le sol de part et d'autre de la forge et reliés à celle-ci par des conduits de terre. Ces apprentis se tenaient constamment assis, les jambes croisées devant les soufflets. Le plus jeune des deux tout au moins, car l'aîné était parfois admis à partager le travail des ouvriers, mais le plus jeune, c'était Siddhartha en ce temps-là, ne faisait que souffler et qu'observer en attendant d'être à son tour élevé à des travaux moins rudimentaires. Pour l'heure, l'un et l'autre pesaient avec force sur les branloirs et la flamme de la forge se dressait, devenait une chose vivante, un génie vif et impitoyable. Mon père, alors, avec ses pinces longues, saisissait la marmite et la posait sur la flamme. Du coup, tout travail cessait quasiment dans l'atelier. On ne doit en effet, durant tout le temps que l'or fond, puis refroidit, travailler ni le cuivre ni l'aluminium à proximité, de crainte qu'il ne vienne à tomber dans le récipient quelques parcelles de ces métaux sans noblesse. Seul l'acier peut encore être travaillé. Mais les ouvriers qui avaient un ouvrage d'acier en train, ou se hâtaient de l'achever, ou l'abandonnaient carrément pour rejoindre les apprentis rassemblés autour de la forge. En vérité, ils étaient chaque fois si nombreux à se presser alors autour de mon père que je devais, moi, qui étais le plus petit, me lever et me rapprocher pour ne pas perdre la suite des opérations. Il arrivait aussi que, gêné dans ses mouvements, mon père fit reculer les apprentis. Il le faisait d'un simple geste de la main. Jamais il ne disait mot à ce moment, et personne ne disait mot. Personne ne devait dire mot, le griot même cessait d'élever la voix. Le silence n'était interrompu que par le halètement des soufflets et le léger sifflement de l'or. Mais si mon père ne prononçait pas de parole, je sais bien qu'intérieurement il en formait. Je l'apercevais à ses lèvres qui remuaient, tandis que penché sur la marmite, il malaxait l'or et le charbon avec un bout de bois, d'ailleurs aussitôt enflammé, et qu'il fallait sans cesse renouveler. Quelle parole mon père pouvait-il bien former? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Rien ne m'a été communiqué de ces paroles. Mais qu'eussent-elles été sinon des incantations? N'est-ce pas les génies du feu et de l'or? Du feu et du vent? Du vent soufflé par les tuyères, du feu né du vent, de l'or marié avec le feu, qu'il invoquait alors. N'était-ce pas leur aide et leur amitié et leurs épousailles qu'il appelait? Oui, ces génies-là, presque certainement, qui sont parmi les fondamentaux et qui étaient également nécessaires à la fusion. L'opération qui se poursuivait sous nos yeux n'était une simple fusion d'or qu'en apparence. C'était une fusion d'or, assurément c'était cela, mais c'était bien autre chose encore. Une opération magique que les génies pouvaient accorder ou refuser. Et c'est pourquoi, autour de mon père, il y avait ce silence absolu et cette attente anxieuse. Et parce qu'il y avait ce silence et cette attente, je comprenais bien que je ne fusse qu'un enfant, qu'il n'y a point de travail qui dépasse celui de l'or. J'attendais une fête, j'étais venue assister à une fête, et ça n'était très réellement une, mais qui avait des prolongements. Ces prolongements, je ne les comprenais pas tous. Je n'avais pas l'âge de les comprendre tous. Néanmoins, je les soupçonnais en considérant l'attention comme religieuse que tous mettaient à observer la marche du mélange dans la marmite. Quand enfin l'or entrait en fusion, j'eusse crié, et peut-être eussions-nous tous crié, si l'interdit ne nous eût défendu d'élever la voix. Je tressaillais, et tout sûrement tressaillais en regardant mon père remuer la pâte encore lourde où le charbon de bois achevait de se consumer. La seconde fusion suivait rapidement. L'or à présent avait la fluidité de l'eau. Les génies n'avaient point boudé à l'opération. « Approchez la brique !» disait mon père, levant ainsi l'interdit qui nous avait jusque-là tenu silencieux. Nous terminons bien sûr cette lecture et nous poursuivons très bientôt avec la suite de la fabrication du bijou. À bientôt, chers auditeurs, pour la suite du livre « L'enfant noir » de Kamaralaye. Au revoir !